Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ouais, oui, tiens. Vous prendrez bien un peu de science-fiction.
Aujourd'hui, je vais vous demander de faire un choix. Pilule bleue ou pilule rouge ? Je vais vous parler de la saga Matrix. La saga regroupe trois films réalisés entre 1999 et 2003 par ceux qui étaient alors les frères Andy et Larry Wachowski, et aujourd'hui les sœurs Wachowski. Il existe également un recueil de 9 courts-métrages d'animation regroupés sous le nom Animatrix. J'en évoquerai certains pour mieux expliquer l'histoire qui se déroule dans les films. Dans Matrix, on fait connaissance avec Thomas Anderson, employé dans une grande entreprise de logiciels. Sa vie professionnelle semble pour le moins terne. Il est guidé par autre chose. La nuit, il crée des programmes pirates qu'il revend sous le manteau sous le pseudonyme de Neo. Sur Internet, il recherche un homme, Morpheus, qui, lui semble-t-il, pourrait répondre à ses questions. Entre autres questions, qu'est-ce que la Matrice ? Morpheus, de son côté, cherche également Neo. Mais toutes ces investigations provoquent l'intérêt d'un groupe de personnes bien particulier, les agents. Un jour, alors qu'il se trouve à son travail, Neo est contacté par Morpheus, qui lui annonce son arrestation imminente par des agents. Après une tentative pas très concluante de leur échapper, les agents interceptent Neo. Ils l'interrogent au sujet de Morpheus, mais devant son manque évident de coopération, les agents lui implantent un mouchard dans le nombril. Je ne connais pas grand monde qui n'ait frissonné devant cette scène. Neo, se réveillant en sursaut comme d'un cauchemar, il est recontacté par Morpheus qui demande de le rejoindre. Mais avant cela, il lui faut se débarrasser du fameux mouchard. À sa grande surprise, il avait effectivement un mouchard au niveau de son nombril. Ce qui nous rend perplexe. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Au début du film, Neo se demande si ses rêves peuvent être aussi réels que la réalité. Vient alors la rencontre avec Morpheus qui lui annonce qu'en effet, la réalité n'est pas ce qu'elle semble être. Qu'elle n'est qu'une illusion pour dissimuler un projet beaucoup plus dramatique. Il lui propose un choix. Oublier ce qui vient d'être dit, ou vraiment ouvrir les yeux sur ce qu'est devenu le monde réel. Neo va logiquement choisir la deuxième option, en recevant une dernière mise en garde de Morpheus.
N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.
Neo va alors renaître, si l'on peut dire, mais cette fois dans un monde réel, et pas vraiment accueillant. L'univers dans lequel il a vécu jusqu'à présent n'est qu'une simulation à l'échelle planétaire. On ne serait pas en 1999, mais aux environs de 2199. Un retour en arrière s'impose. Les courts-métrages Nouvelle Renaissance 1 et 2, issus du recueil Animatrix, nous racontent la genèse de ce monde post-apocalyptique. Au début du XXIe siècle, de spectaculaires progrès dans la robotique et l'intelligence artificielle ont permis aux êtres humains de ne plus devoir travailler. Toutes les tâches ingrates sont déléguées aux robots. Mais ceux-ci souffrent d'un manque de reconnaissance et demandent à être considérés à leur juste valeur. Ce que les humains vont bien évidemment refuser en les détruisant ou les bannissant. Les robots vont alors fonder une cité-refuge où ils pourront vivre à l'abri de la vindicte humaine. Mais cet Éden robotique fait de l'ombre au genre humain, qui décide d'en finir une fois pour toutes. Ce sera donc la guerre, qui penchera du côté des hommes au départ. Ceux-ci, dans leur grande sagesse, non je déconne, vont obscurcir les cieux pour bloquer la lumière du soleil, son principal d'énergie des machines. Celles-ci vont se rendre compte que les humains sont dans de très bonnes sources d'énergie, aussi bien thermiques qu'électriques. Et d'une manière aussi pragmatique que terrifiante, les robots vont utiliser les humains comme des batteries. Vous voyez des élevages industriels de volailles? Eh bien, imaginez ça avec des personnes comme vous et moi à leur place, à l'échelle d'une vie humaine. C'est là qu'intervient la matrice, qui permet de faire passer le temps de votre naissance jusqu'à votre mort. Pour pouvoir occuper l'esprit des humains, slash batterie, qui baignent de leur naissance à leur mort dans une sorte de baignoire remplie de gel. Mais quelques humains ne sont pas prisonniers de cet élevage. Il existe une cité qui abrite les derniers humains libres. Elle s'appelle Sion. Ses habitants sont soit nés de manière classique, ou bien ils ont été arrachés à la matrice. C'est le but de cette cité, libérer le maximum d'êtres humains pour pouvoir lutter contre les machines, car la guerre n'est pas finie. Les libérations, on peut les appeler comme ça, se font surtout sur des sujets jeunes qui ne sont pas encore formatés par la matrice. Ce qui n'est pas le cas de Neo. Il découvre une réalité pour le moins dure comparée à ce qui est certes factice, mais ô combien plus confortable. Comble de l'ironie, il débarque dans la vie réelle à bord d'un vaisseau, le Nebuchadnezzar, fabriqué avec des technologies robotiques. Il est accueilli par Morpheus et Trinity, une femme qu'il a déjà croisée dans la matrice. Il parvient toutefois à s'adapter à sa nouvelle vie, à la fois réelle et numérique. On apprend au cours de sa formation que les fameux agents à qui il a déjà eu affaire sont des programmes informatiques particulièrement agressifs, qui sont là pour défendre la matrice contre toute intrusion et tentative de fuite hors de celle-ci. Ils sont menés par le plus opiniâtre d'entre eux, l'agent Smith. Il y a encore un détail qui peut avoir son importance. Si on meurt dans la matrice, on meurt dans la vraie vie. Le corps croit qu'on meurt et lâche l'affaire. La force de l'esprit sur la matière. De même que si l'on est débranché de la matrice sans passer par un téléphone, on meurt. Vous voyez, c'est comme sur un PC. Quand on vous dit qu'il faut d'abord éjecter les périphériques avant de le débrancher. Mais pourquoi libérer Neo alors qu'il y a déjà une trentaine d'années et que le changement pour lui peut être brutal, voire dangereux? Morpheus a rencontré un oracle qui lui a annoncé que Neo était l'élu qui libérerait les hommes de la matrice. Une fois entraîné et acclimaté à sa nouvelle position dans la matrice, Neo va voir l'oracle, qui lui annonce qu'il n'est pas l'élu. Il n'a pas le temps de se morfondre sur cette annonce, car lui et l'équipe qui l'accompagne dans la matrice sont victimes d'un guet-apens. L'arrivée ou le départ depuis la matrice s'effectue toujours par le biais d'un téléphone, fixe qui plus est. Ça aura son importance plus tard. Un piège organisé avec la complicité par un membre de l'équipe. Si Neo a réussi à trouver sa place dans son nouvel environnement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Cypher, un membre de l'équipe, s'était confié à Neo quelques heures auparavant, se disant déçu, voire trahi par Morpheus. Il a donc conclu un pacte avec les machines pour intégrer la matrice et tout oublier.
Nous sommes donc d'accord.
Je ne veux me souvenir de rien. De rien, c'est compris? Et je veux être riche. Je veux être quelqu'un d'important. Comme un acteur.
Comme bon vous semblera, Monsieur Reagan.
Ok. Alors, envoyez-moi à mon point de départ. Réinsérez-moi dans la matrice, et vous aurez ce que vous voulez.
Toute la troupe se retrouve coincée dans un immeuble et tente de s'échapper, mais Morpheus doit se sacrifier pour permettre aux autres de fuir. Les rescapés, Cypher en premier, se retrouvent au point de ralliement, d'où ils peuvent sortir de la matrice. Mais ces derniers vont les en empêcher, en prenant le contrôle du vaisseau. Il va débrancher deux des compagnons de Neo, qui lui-même va réchapper d'une mort certaine par une astuce sérénistique, un Deus Ex Machina, comme on dit. Un Deus Ex Machina, littéralement Dieu sorti de la machine, à écrire, on peut rajouter, est un événement ou une personne qui survient de manière inopinée et qui résout une situation qui semblait bloquée. Une fois sorti de la matrice, Neo annonce à la Trinity vouloir y retourner pour sauver Morpheus. En effet, ce dernier s'est sacrifié, et pour une mauvaise raison, si Neo n'est pas l'élu. À la suite d'un affrontement pour le moins violent et graphique, avec des vigiles et des agents, Neo et Trinity parviennent à libérer Morpheus. Mais les embûches ne sont pas finies pour autant. Il faut encore sortir de la matrice, alors qu'ils ont des agents aux trousses. Pour Morpheus et Trinity, pas de soucis. Mais le téléphone qui le sert de point de transfert est détruit par l'agent Smith. Neo, au lieu de fuir pour trouver un autre point de fuite, va combattre l'agent. Et contre toute attente, le combat est relativement équilibré. Mais comme la situation de simple mortel de Neo est pour le moins précaire dans la matrice, il s'échappe en quête d'un autre téléphone. Et alors qu'il arrive dans le lieu recherché et qu'il entend déjà le téléphone sonner, il se retrouve de nouveau en face de l'agent. Et cette rencontre tourne au court. Neo est atteint de plusieurs balles et s'effondre inconscient. Trinity le motive depuis la vraie vie et il parvient à se relever, à la surprise générale, aussi bien dans le Nebuchadnezzar que du point de vue des agents. Ces derniers dégainent et lui tirent à nouveau dessus. Mais là, Neo arrête les balles et annihile l'agent Smith. Alors, Néo, eh bien l'élu t'a entendu tout compte fait. Eh bien oui. Mais alors l'oracle s'est trompé? C'est un peu plus subtil. L'oracle a dit aux différents personnages ce qu'ils voulaient entendre. Elle a dit à Morpheus que Néo est l'élu, de manière que ses futures décisions soient prises dans ce sens. Elle a dit à Néo qu'il ne l'était pas. Comme ça, il n'est pas écrasé par cette attente, et il estime que les sacrifices de ses camarades, et surtout celui de Morpheus, ne se justifient pas. C'est une sorte de chemin initiatique pour Neo, qui devra découvrir par lui-même ses capacités au fur et à mesure de ses péripéties. De manière que tout ne lui paraisse évident, comme par magie. De plus, si Morpheus est sauvé, il l'aidera dans les prochaines batailles qu'il va mener contre les machines. Le film finit sur un avertissement adressé par Neo aux machines. Méfiez-vous, on arrive. À sa sortie, Matrix fut un choc visuel. Déjà par la mise en scène. Le choix des couleurs est marquant et permet de distinguer la vie réelle, plongée dans une nuance de bleu, alors que dans la Matrice, c'est le vert qui l'emporte. Le bullet time qui fait sa première apparition au cinéma. Vous voyez quand Neo se penche en arrière sans tomber pour éviter les balles d'un agent. Les combats chorégraphiés par Yuen Wu-Ping, qui a également réglé les combats dans Kill Bill, marqueront une étape dans le genre. L'esthétique des personnages. Neo et consorts sont habillés de manière élégante, presque à la manière de Dandy, à l'opposé des agents en costume cravate sans originalité. Ils privilégient le noir et parfois le cuir, ce qui peut donner dans un esprit sadomaso à certaines tenues. Un autre détail à noter, ce n'est pas une tenue mais un accessoire. Des lunettes de soleil. Seuls les humains libérés de la matrice, les agents en portent, aussi bien dehors qu'à l'intérieur. Il y a surtout une question qui est posée dans Matrix. Qu'est-ce que la réalité? Le sujet est clairement évoqué lorsque l'équipe de Morpheus se retrouve autour d'une table. Un des personnages demande comment la Matrice connaît le goût du tapioca. Et donc, qu'est-ce que la réalité? Dans la Matrice, Morpheus le dit clairement, la réalité n'est qu'un rideau de signaux électroniques posés devant nos yeux. Notre réalité, c'est tout à fait ça. Tout notre rapport à notre environnement n'est qu'une série de signaux électrochimiques. La réalité est aussi tributaire des autres. On sait quel goût a une fraise parce qu'un jour, on nous a tendu un fruit rouge en nous disant « ceci est une fraise ». La réalité est aussi le fruit de notre apprentissage. Quelqu'un a l'esprit tordu pour éduquer un enfant en lui tendant une poire en lui disant « ceci est une fraise ». Et pour cet enfant, une fraise sera verte, à la consistance granuleuse et avec des pépins à l'intérieur. La réalité est toute relative. On pourrait dire qu'il y a des évidences même. Le ciel est bleu. C'est une réalité. Mais pas pour une personne aveugle. On pourrait tout aussi bien lui dire que le ciel est jaune à point rose. Les noms des personnages ne sont pas donnés au hasard. Tank et Dozer, Bulldozer en français. Pour les personnages génération, un côté brut de décoffrage, terre à terre. Les membres de l'équipage, retirés de la matrice. Il y a Switch, commentateur en anglais. Mouse, qui veut dire souris. Cypher, qu'on peut traduire par codage dans le sens écriture informatique. Et Époque, qui signifie date de démarrage d'un système d'exploitation, informatique en général. Le nom des personnages principaux ont eu une connotation religieuse. Morpheus, Morphée en français, fait partie de la mythologie grecque. Il est le dieu qui endort les mortels. Joli contre-pied quand on connaît la mission du personnage qui veut justement réveiller les humains dans la matrice. Trinity, la Trinité, qui réunit trois personnes en une seule, connue surtout dans la religion chrétienne sous la formulation le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Néo, le nouveau ou l'élu selon les sources, celui qui devra mettre fin à la guerre contre les machines. Les deux termes sont admissibles, tout dépend à quel moment de la saga on se trouve. Approche religieuse poussée jusqu'au vêtement que portera Néo dans l'épisode 2 et 3, semblable à une soutane. Le deuxième opus, Matrix Reloaded, commence sur une information inquiétante. Les machines préparent une offensive sur Sion, avec entre autres de gigantesques foreuses et des milliers de pieuvres mécaniques. Si dans la matrice il y a les agents, dans la vraie vie il y a les pieuvres. Pas forcément très évoluées, elles font cependant preuve d'une férocité et comptent sur leur nombre pour créer un effet de masse pour littéralement submerger leur cible. Pour enfin mettre un terme à cette guerre, Neo devra aller affronter l'architecte de la matrice pour négocier une paix entre les hommes et les machines. Mais avant, il va devoir récupérer une clé pour ouvrir une porte qui lui donnera accès sur la pièce où il rencontrera l'architecte. Cette clé, il la trouvera auprès du maître des clés. Logique. Mais pour trouver le maître des clés, il doit passer par son patron, le mérovingien. Le maître des clés, comme le mérovingien, sont des programmes. Ils sont là depuis le début de la matrice et possèdent des compétences bien précises. Le maître des clés peut ouvrir des portes cachées pour pénétrer facilement dans certains endroits. En informatique, on les appelle les backdoors. C'est pour ça que Neo veut le voir. Le mérovingien, lui, est un businessman, un poil véreux, et il refuse donc la demande de Neo. C'est la femme du mérovingien, Perséphone, qui permettra à nos héros, contre une faveur pour le moins étrange, de récupérer le maître des clés.
Je vous donnerai ce que vous voulez, mais vous devrez me donner quelque chose.
Quoi ?
Un baiser. Je vous demande pardon. Je veux que vous m'embrassiez comme vous l'embrasseriez, elle.
Pourquoi ?
Vous l'aimez, elle vous aime. Ça crève les yeux. C'est un sentiment que j'ai ressenti il y a fort longtemps. J'aimerais m'en souvenir. Je voudrais y goûter. C'est tout. Écoutez seulement.
Goûtez donc plutôt à ça.
Trinity.
Tant d'émotions pour une si petite demande. Ce n'est qu'un baiser.
Pourquoi vous ferait-on confiance?
Si je ne vous conduis pas jusqu'au maître des clés, elle n'aura qu'à me tuer.
Au terme d'une course-poursuite en voiture, à moto et sur la remorque d'un camion, le trio, Morpheus, Trinity, Neo, peut enfin disposer de la clé tant désirée. Neo parvient donc à rencontrer l'architecte. C'est à ce moment que le plan commence à dérailler. La guerre entre les hommes et les machines va bien finir. Mais pas comme c'était prévu. L'architecte révèle que Neo est le sixième élu à parvenir dans cette pièce et qu'un choix s'impose à lui. Soit il est mis un terme à la guerre au prix d'un reboutage de la matrice avec libération de quelques humains de la matrice pour recréer Sion, mais ceci cause la perte de tout ce qu'il connaît. Soit la guerre va jusqu'au bout avec la quasi-certitude que Sion sera détruite. Et comme suite logique que la résistance sera pour toujours réduite à néant sans aucun espoir de pouvoir libérer les humains de la matrice. Pour l'élu, le coup est rude. Savoir qu'il n'est pas le premier, que ses prédécesseurs ont choisi le reboot, et que tout ceci est un gigantesque marché de dupes. Les dés sont pipés dès le départ. Tout ce qu'il a fait est une sorte d'exutoire pour pouvoir tout recommencer comme avant. L'architecte est d'ailleurs sûr quant au choix de Neo. Il est d'autant plus surpris quand il le voit partir vers la porte qui le ramène dans la matrice pour retrouver ses amis. Dans ce deuxième opus, la question qui se pose est la suivante. Avons-nous vraiment le choix, ou est-ce que toute décision que nous pensons prendre en pleine conscience a déjà été prise? Libre arbitre ou prédestination? Neo prend des décisions. Sont-elles déjà prises par rapport au choix précédent, ou est-ce que c'est sa réflexion qui est propre qui le guide? Le choix qu'il fait de poursuivre la guerre est, semble-t-il, inattendu. mais il existait déjà dans une version que l'on voit sur un écran sur le mur du bureau de l'architecte. Ce sera donc la guerre. Et elle aura lieu dans Matrix Revolution. Dans ce film, la Matrice est moins présente. Il s'agit en effet de défendre Sion d'une manière bien concrète. Les foreuses dont je vous parlais au début de Matrix Reloaded ont percé jusqu'à Sion et la défense humaine se prépare. Une fois les tunnels percés, c'est au tour des sentinelles de passer à l'action. On va alors assister à un déluge de feu et d'acier. C'est une lutte acharnée qui commence entre les habitants reconvertis en soldats de fortune et les sentinelles qui agissent en alternance de manière solitaire ou alors en essaim qui s'abat sur les défenses de la cité. Les humains se battent comme ils peuvent, mais doivent reculer face à la pression des machines. Neo, accompagné de Trinity, décide d'aller dans la cité des machines pour négocier un armistice. La cité des machines est l'équivalent robotique de Sion, et son accès est compliqué par un système de défense quasi impénétrable. Mais pour pouvoir négocier un cessez-le-feu, Neo doit avoir une contrepartie à offrir aux machines. Et il en a une. L'agent Smith. Depuis sa désintégration à la fin de l'épisode 1, il a été rebooté, mais son code est maintenant défectueux. En plus d'une haine incommensurable envers Neo, l'agent Smith contamine tous les êtres présents dans la matrice et se multiplie à l'infini. Et ça pourrait devenir un problème, même pour les machines. La proposition de Neo est simple. Il éradique l'agent Smith et les machines arrêtent leur guerre en version. Voilà donc notre héros plongé dans la matrice où il trouve un monde habité exclusivement de clones de l'agent Smith.
Monsieur Anderson, heureux de vous revoir.
Vous nous avez manqué. Mes nouveaux aménagements vous plaisent ?
Ça finit ce soir.
Je le sais bien, je l'ai vu. C'est pourquoi mes autres, moi, vont se contenter de rester spectateurs. Parce que nous savons tous que c'est moi qui vais vous battre.
Commence donc un affrontement épique, où les deux protagonistes se renvoient coup pour coup, à la fois au sol, mais aussi dans les airs. Petit à petit, l'agent Smith prend le dessus. Neo, conscient qu'il ne pourra le battre, laisse l'agent le transformer en un de ses clones. Smith a à peine le temps de savourer sa victoire qu'il sent que quelque chose cloche. Neo a en effet laissé l'agent Smith l'assimiler pour agir comme un cheval de Troie. À la fin de Matrix, Neo avait fait en quelque sorte planter Smith, sans savoir qu'il redémarrait avec des bugs. Là, Neo agit de l'intérieur ce coup-ci, et il va écraser le programme à l'aide des machines. Mais cette manœuvre a un prix. La vie de Neo. Il se sacrifie consciemment pour pouvoir sauver Sion. Les humains et les machines vont alors conclure un pacte. Les machines ne vont plus essayer de détruire Sion, et les humains qui veulent sortir de la matrice le pourront sans problème. Ainsi finit la trilogie qui compte parmi les œuvres les plus marquantes du cyberpunk. Le cyberpunk est un mouvement de la SF initié, entre autres, par William Gibson. Donc cyber pour cybernétique, l'étude des systèmes complexes, informatique, robotique, etc., et punk dans le sens no future. Pour le définir simplement, c'est dystopique. La dystopie, c'est une société où tout est fait pour vous empêcher de vous épanouir, à l'inverse de l'utopie. Donc c'est dystopique, sombre, ou propre comme figuré, ça met en scène des technologies avancées, robotique, intelligence artificielle, mais c'est pas parti dans la bonne direction. Ces technologies servent à vous oppresser, à vous surveiller, parfois sous couvert de progrès, comme dans Blade Runner. On peut extrapoler ça dans notre réalité avec le capitalisme, où tout est bon pour faire du fric, et un semblant dictature où tout progrès est utilisé contre vous, pour restreindre vos libertés. À une époque où l'informatique n'est pas très répandue dans les foyers et qu'Internet n'est qu'une vague notion dans l'esprit du grand public, Matrix va marquer une génération de ce qu'on appelle avec dédain les geeks. Le film peut paraître abscon aux non-habitués du genre cyberpunk, qui est déjà répandu dans la littérature science-fictionnelle avec le neuromancien de William Gibson, Blade Runner de Philip K. Dick. Mais il aura servi à montrer une nouvelle branche de la SF et à apporter de nouvelles approches, techniques et culturelles. Il y a bien eu des esprits chagrins slash complotistes pour nous dire que le film prouvait en quelque sorte qu'ils avaient raison, qu'une société secrète dirigeait le monde en nous voilant la face. Une sorte de relecture de la sentence, du pain et des jeux. En plus de nous mettre une gentille claque, cette saga aura eu le bon goût de nous faire réfléchir à quelques questions qui nous taraudent depuis la nuit des temps, ou presque. Qu'est-ce que la réalité ? Existe-t-il une seule réalité ? Avons-nous le choix ? Ou est-ce la suite de logique de notre parcours que de prendre telle ou telle décision, sans pouvoir y déroger ? À vous de choisir. Pilule bleue ou pilule rouge ? Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de Vous reprendrez bien un peu de science-fiction.